Chapitre 58. Il faut en effet considérer pour quel but on ment. Il est bien différent si c'est pour conserver ou pour détruire. On peut mettre complètement en parallèle le chrétien et l'anarchiste. Leurs buts, leurs instincts, ne sont que destructeurs. L'histoire démontre cette affirmation avec une précision épouvantable. Nous avons vu tout à l'heure une législation religieuse ayant pour but d'éterniser une grande organisation de la société, condition supérieure pour faire prospérer la vie. Le christianisme, au contraire, a trouvé sa mission dans la destruction d'un pareil organisme, puisque la vie y prospérait. Là-bas, les résultats de la raison, durant de longues années d'expérience et d'incertitude, devaient être semés pour servir dans les temps les plus lointains, et la récolte devait être aussi grande, aussi abondante, aussi complète que possible. Ici, l'on voudrait au contraire empoisonner la récolte pendant la nuit. Ce qui existait aere perennius, l'Empire romain, la plus grandiose forme d'organisation, sous des conditions difficiles, qui ait jamais été atteinte, tellement grandiose que, comparé à elle, tout ce qui l'a précédé et tout ce qui l'a suivi n'a été que dilettantisme, chose imparfaite et gâchée. Ces saints anarchistes se sont fait une piété de détruire le monde, c'est-à-dire l'Empire romain, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus pierre sur pierre, jusqu'à ce que les Germains mêmes et d'autres lourdauds aient pu s'en rendre maîtres. Le chrétien et l'anarchiste sont décadents tous deux incapables d'agir autrement que d'une façon dissolvante, venimeuse, étiolante. Partout, ils épuisent le sang. Ils ont tous deux par instinct une haine à mort contre tout ce qui existe, tout ce qui est grand, tout ce qui a de la durée, tout ce qui promet de l'avenir à la vie. Le christianisme a été le vampire de l'Empire romain. Il a mis à néant, en une seule nuit, cette action énorme des Romains, avoir gagné un terrain pour une grande culture qui a le temps. Ne comprend-on toujours pas? L'Empire romain que nous connaissons, que l'histoire de la province romaine enseigne toujours davantage à connaître, cette admirable œuvre d'art de grand style, était un commencement. Son édifice était calculé pour être démontré par des milliers d'années. Jamais jusqu'à maintenant on n'a construit ainsi, jamais on n'a même rêvé de construire, en une égale mesure, sub specie aeterni. Cette organisation était assez forte pour supporter de mauvais empereurs. Le hasard des personnes ne doit rien avoir à voir en de pareilles choses. Premier principe de toute grande architecture. Pourtant, elle n'a pas été assez forte contre l'espèce la plus corrompue des corruptions. Contre le chrétien. Cette sourde vermine qui s'approchait de chacun en pleine nuit, et dans le brouillard des jours douteux, qui soutirait à chacun le sérieux pour les choses vraies, l'instinct des réalités, cette bande lâche, féminine et doucereuse, a éloigné pas à pas l'âme de cet énorme édifice. Ces natures précieuses, virilement nobles, qui voyaient dans la cause de Rome leur propre cause, leur propre sérieux et leur propre fierté. La sournoiserie des cagots, la cachotterie des conventicules, des idées sombres comme l'enfer, le sacrifice des innocents, comme l'union mystique de la dégustation du sang. Avant tout, le feu de la haine lentement avivé, la haine des Chandala. C'est cela qui devint maître de Rome. La même espèce de religion qui, dans sa forme préexistante, avait déjà été combattue par Épicure. Qu'on lise Lucrèce pour comprendre ce à quoi Épicure a fait la guerre. Ce n'était point le paganisme, mais le christianisme. Je veux dire la corruption de l'âme par l'idée du péché, de la pénitence et de l'immortalité. Il combattit les cultes souterrains, tout le christianisme latent. En ce temps-là, nier l'immortalité était déjà une véritable rédemption. Et Épicure eût été victorieux. Tout esprit respectable de l'Empire romain était épicurien. Alors parut Saint Paul. Saint Paul, la haine de Tchandala contre Rome, contre le monde devenu chair, devenu génie, Saint Paul le juif errant par excellence. Ce qu'il devina, c'était comment on pourrait allumer un incendie universel avec l'aide du petit mouvement sectaire des chrétiens, à l'écart du judaïsme. Comment, à l'aide du symbole Dieu sur la croix, on pourrait réunir en une puissance énorme tout ce qui était bas et secrètement insurgé, tout l'héritage des menées anarchistes de l'Empire. Le salut vient par les Juifs. Faire du christianisme une formule pour surenchérir les cultes souterrains de toutes les espèces, ceux d'Osiris. Lacune de deux pages. Suite du chapitre 60. La noblesse allemande manque presque dans l'histoire de la haute culture. Christianisme, alcoolisme, les deux grands moyens de corruption. En somme, il ne pouvait pas y avoir de choix entre l'islam et le christianisme, tout aussi peu qu'entre un arabe et un juif. La décision est prise. Personne n'a plus la liberté de choisir. Ou bien on est Tchandala, ou bien on ne l'est pas. Guerre à mort avec Rome, paix et amitié avec l'islam. Ainsi le voulut ce grand esprit libre, le génie parmi les empereurs allemands, Frédéric II. Comment? Faut-il qu'un Allemand soit génie, soit esprit libre pour devenir convenable? Je ne comprends pas comment un Allemand ait jamais pu se sentir chrétien.